Comment faire chanter la langue française? C'est une question que se posent nombre de musiciens que j'ai reçus qui vantaient à ce micro la mélodie de l'espagnol, de l'anglais, de l'italien par rapport à celle du français. Étrangement, c'est une question qu'on pose rarement aux écrivains et encore moins aux académiciens. En cette semaine de la langue française, je suis tombé ce matin sur un papier de Frédéric Plenel sur le site slate.fr où il est question du français justement et de sa petite musique somme toute assez monotone. C'est tout simplement, nous dit-on, que le français dispose de peu d'accents toniques, une rareté que l'on partage avec le coréen, figurez-vous. Alors évidemment, selon les régions, on a des accents, mais dans la plupart des autres langues, chaque mot trouve un sens différent selon la façon dont il est accentué. Un mot peut même être incompréhensible si l'accent tonique est mal placé. Nous, on dit moustique par exemple, mais si au lieu de dire mosquito, je dis mosquito, un anglais me répond à tes souhaits. Il ne comprend pas, autrement dit, la langue doit chanter juste, c'est pas pour faire joli, c'est comme ça. Le génie du français, à l'inverse, nous dit ce papier, ne serait pas dans l'oralité, mais dans sa syntaxe, dans son esprit, dans son écrit, si bien que la faire chanter la langue française, ce serait toujours un défi. On le relève, ce défi ?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui fait chanter la langue, vous me direz encore heureux. Après tout, il est quand même académicien et il s'apprête à publier dans quelques jours un livre écrit et dessiné à la main dans l'esprit de son très remarqué autoportrait de Paris avec chat. Ça s'appelle Vers d'autres rives et ça sort dans deux semaines, donc aux éditions de l'Aube. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Merci aussi de m'avoir invité.
À quoi ça tient la musicalité d'une langue pour vous?
On parle de faire chanter la langue. Moi, je ne sais pas chanter. Je n'ai pas d'oreille du tout et je ne sais pas danser. Et ce qui n'est pas bien dans, sous les tropiques où les gens aiment chanter et danser selon les clichés.
Mais la langue française?
La langue française, c'est l'esprit qui fait chanter cette langue. Et ce ne sont pas les accents toniques, et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, comme pour l'anglais, où si vous mettez mal l'accent tonique, vous tombez dans une autre ruelle. Et c'est pas qu'on ne vous comprend pas, mais on a entendu autre chose. Vous risquez de mener la conversation sur une autre direction. Moi, tout ce que je sais faire, c'est faire danser la langue sur la page.
Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la distinction qui est faite entre la langue écrite et la langue parlée, comme si le français ne se réalisait pas vraiment, ou pas toujours, à travers l'oralité. Pourtant, l'oralité fait vivre une langue.
Tout à fait. Bon, la langue vient de l'oralité. C'est la masse de gens qui la parlent, qui impose d'ailleurs les mots, qui impose sa musique même. Et oui, tout à fait.
Je vous ai entendu dire un jour que si on écrivait avec l'esprit, on parlait avec le corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Je m'implique beaucoup quand je parle. J'aime bien avoir une conversation passionnée, chaude. Mais quand j'écris, je prends une petite distance et j'installe une autre musique, une autre forme. Et j'ai tendance à vouloir plaire à l'esprit. Et ce n'est pas la musique au premier degré qui m'intéresse, c'est plutôt le rythme. Et ce serait de danser sans musique.
Danser sans musique. Oui. Ça, c'est un vrai programme d'écriture. Dany Laferrière, il est évidemment question d'écriture dans votre nouveau livre intitulé « Vers d'autres rives » et vous dressez dès les premières pages un parallèle très intéressant entre l'art de la cuisine et l'art de l'écriture. Ce parallèle, c'est à l'observation de votre grand-mère que vous le devez. Que cuisinait-elle, votre grand-mère ?
Ah, c'est des ratatouilles, c'est des choses qui se tiennent dans une marmite d'eau chaude.
Peut-être l'écriture se tient-elle aussi dans une marmite d'eau chaude?
Oui, elle introduisait, elle jetait des aliments, et la viande, du poisson, des légumes, et puis à la fin, on a quelque chose à manger qui n'a le goût d'aucun aliment particulier, mais quelque chose de nouveau, de neuf.
Bon, le repas est prêt et j'ai le fin mot de l'histoire. Tout vient du fait qu'on a mis l'eau sur le feu avant d'avoir les deux poissons. Pour Da, la grand-mère, la surprise fait bouger le monde et crée ainsi la vie. Des années plus tard, j'ai appliqué cette vieille recette dans mon travail d'écrivain. Il faut commencer un livre avant de savoir quel livre on veut écrire. En un mot, il faut faire confiance à cette chose qui aime arriver. Bon appétit. Alors, Dany Laferrière, quel rôle joue la surprise, l'inconnu, dans votre écriture ?
C'est pour moi la grande aventure. Dans ma littérature, je ne cherche pas à installer un suspense. Pour moi, le suspense doit être à l'intérieur même de l'écrivain. Et je vais, à chaque fois que je tourne la page, je ne sais pas où je vais aller.
Vous ne savez rien.
Je ne sais rien. Je crois que j'applique ça aussi même au niveau de la pensée, des idées. Je crois qu'il faudrait de plus en plus parler de ce qu'on ne sait pas. On est plus impliqué, plus intéressé par ce qu'on dit puisqu'on ne sait pas. Et on attend aussi la participation de ceux qui nous écoutent. Et ils vont alimenter, voyant très vite que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Et puis c'est démocratique aussi, tout le monde se sent au même pied d'égalité. Et c'est d'après moi ce qu'on appelle une conversation.
Ce que vous dites aussi, c'est que le désir d'écrire existe, voire préexiste, à l'envie même de dire quelque chose. Que c'est en écrivant qu'on découvre ce qu'on a à dire.
Ah oui,
en
oui,
fin
oui,
de compte.
Oui, oui, qu'on tient ça plus longuement parce que la pensée vient quand on s'assoit. Je crois bien qu'il faut, oui, le fait d'être assis et fait amener la pensée. C'est un métier de gens assis comme celui de la couturière ou du cordonnier. Ce sont des métiers à gestes répétitifs, mais qui finit par produire quelque chose qui permet de nous chausser ou de nous vêtir.
Comment est-ce qu'il est né chez vous, ce désir d'écriture?
Eh ben, il est né de la lecture. Il est né de la lecture, mais la lecture n'est pas née, elle, de l'alphabet, parce que la lecture m'est venue par l'oreille. C'est ma mère qui me lisait le soir. Et c'est étonnant parce que les enfants, ils comprennent exactement les phrases, l'intention, le récit, avant même de savoir les lettres de l'alphabet. Ils peuvent les repérer par le son. Et c'est-à-dire, si ma mère voulait en sauter un paragraphe, et mal lui en prend parce que je dis non, tu as sauté là. Et il y a quelque chose qui manque dans le récit.
L'enfant que vous étiez, qui a appris ainsi à lire et à écrire, il est toujours présent aujourd'hui, chaque fois que vous écrivez, Dany Laferrière?
Ah, mais je l'appelle, j'insiste pour qu'il vienne m'assister parce que c'est le maître. Je suis un enfant structuré et toute sa sensibilité est faite de répétition et ma littérature est une répétition constante. Et oui, les enfants, ils peuvent lire Cendrillon 100 fois facilement.
Une répétition, et dites-moi si je me trompe, je parle sous votre contrôle aussi, un mouvement. C'est-à-dire que le désir d'écrire vient chez vous d'un goût pour tout ce qui de près ou de loin est lié au mouvement, à la vie en mouvement, comme vous dites, vous écrivez. J'ai toujours cru que la différence première était entre les nomades et les sédentaires. Je dis nomades sans voir uniquement le corps, l'esprit, le cœur peut-être. J'englobe aussi les idées, les formes, les sensations, les couleurs, les sentiments comme les émotions. En quoi l'écriture a-t-elle quelque chose à voir avec le nomadisme?
Ah mais ça roule, comme on dit.
Ça roule.
Que, oui, moi c'est l'esthétique de la roue. Une roue pour avancer doit tourner d'abord sur elle-même, c'est-à-dire à la fois immobile et c'est cette immobilité qui crée le mouvement. Elle tourne sur elle-même et ça fait que la voiture avance. L'écriture aussi. Et il y a des écrivains comme ça hein, qui se répètent et pour avancer. Et chaque fois que la répétition arrive, il y a un sens différent de la même phrase. Enfin, on connaît cette vieille technique du refrain, quoi.
Et ça implique que votre écriture est aussi une écriture de la variation sans cesse.
Oui, la variation sur le même thème.
Mais alors,
j'aime bien.
S'il y a mouvement, vers quels horizons, vers quels ailleurs, vers quelles rives votre écriture vous porte-t-elle?
Vers d'autres rives, c'est-à-dire je n'en sais rien avant d'y arriver.
Vous avez beaucoup voyagé, Dany, et ce livre, Vers d'autres rives, raconte notamment les migrations successives qui vous ont porté de Port-au-Prince jusqu'à Montréal ou Miami, entre autres. Et si ces départs ont été des moteurs dans votre écriture, certains ne se sont pas faits dans la joie. Qu'est-ce que vous en faites de la douleur?
Oh, la douleur, j'en fais quelque chose de beaucoup mieux sur la page. Et même en la vivant, cette douleur, je savais que j'allais l'utiliser, qu'elle me serait plus complice, plus complète amitié que la joie. La joie, je suis déjà payé d'avance.
C'est-à-dire que vous l'acceptez, vous l'embrassez, cette douleur?
Absolument, j'allais m'en servir. Parce que pour la joie, je suis payé d'avance, je suis heureux au moment où elle arrive, mais pour la douleur, c'est de l'argent au fond de la poche.
Et dès que vous l'éprouvez, cette douleur, vous le savez, ça?
Ah oui, tout à fait. Oui. Oh. C'est exactement la phrase contraire qu'a dit un de mes écrivains préférés, Henri Miller, mais elle est bonne pour la douleur aussi. Il a dit, à cette époque, j'étais heureux et je le savais. À cette époque, j'étais malheureux et je savais que ça allait me servir.
Celle qui ne ressent pas la moindre douleur dans cette émission, vous la connaissez sans doute, Dany, c'est la culture et son actualité insensible qui, pour ne rien vous cacher, se moque complètement des autres et de leurs sentiments. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 21 mars? Le 94 entre dans la danse. Le département du Val-de-Marne inaugure aujourd'hui la 20e édition de sa biennale de danse autour du thème Europa entre déesses et démons. La manifestation accueille 42 compagnies pendant 5 semaines, de la briqueterie de Vitry jusqu'à la coulée verte de Villecresnes. On va découvrir les danses de sorcières de Lady Magma, nouvelle création de la chorégraphe irlandaise Una Doherty, ou encore Maybe, pièce fondatrice de l'œuvre de Maggie Marin, reprise pour l'occasion. Que du bon.
Moi, je pense que le monde est tout le temps en manque de mots. Et la littérature est là pour dire les mots justes.
En écho à la journée de la francophonie hier, la grande femme de lettres Yannick Lahens donnera aujourd'hui à 18h une leçon inaugurale au Collège de France intitulée « Urgence d'écrire, rêve d'habiter ». Auteur notamment du roman « Bain de lune », prix féminin en 2014, Yannick Lahens inaugure ainsi la chaire Monde francophone, dont elle devient la première titulaire. Jusqu'en juin, elle donnera 9 colloques pour penser et écrire Haïti autrement, des cours gratuits et ouverts à tous. Chic.
Des molniers, mes télégrammes.
Koutsiev, coup de blues, le cinéaste russe d'origine géorgienne Marlène Koutsiev est mort mardi, il avait 93 ans. Considéré comme le père de la nouvelle vague soviétique, il était auteur d'une douzaine de films majeurs du dégel politique ayant suivi la mort de Staline en 1953. On lui doit notamment le bastion d'Ilitch, film symbole de toute une génération, ou encore Le printemps dans la rue, Zaretnaya, et puis aussi J'ai 20 ans. En 2017, la Cinémathèque française lui rendait hommage. Il était l'un des enseignants de cinéma les plus respectés, un maître pour plusieurs générations. RIP. Et enfin, dernier appel pour les Cranberries, le groupe irlandais culte des années 90 vient de révéler Wake Me When It's Over, nouvel extrait de leur dernier album à paraître en avril prochain. Titré In The End est conçu comme un hommage à Dolores O'Riordan, leaderuse du groupe disparue brutalement en janvier 2018. Le disque réunira les 11 derniers morceaux écrits et composés par la chanteuse à la voix inoubliable. Et Dany Laferrière, invité de Boomerang ce matin, en cette semaine de la langue française et de la francophonie, je le disais en mentionnant Yannick Lahens. Ce qui est pour le moins étrange, c'est que vous êtes devenu sans doute, malgré vous, hein, une sorte de monsieur francophonie, Dany, un porte-parole, un étendard. Ça vous agace, ça vous gonfle, honnêtement?
Ça me permet de voyager d'abord, il faut le dire, puisqu'on m'invite un peu partout, mais j'ai tout fait pour ne pas l'être. Je peux pas être un monsieur en ayant écrit Comment faire l'amour avec un aigre sans se fatiguer, ni un monsieur francophonie en ayant écrit il y a pas longtemps Je suis un écrivain japonais.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est pas ma faute. Mais je crois que c'est toujours cela. Et chaque fois que vous tentez de vous écarter, d'aller ailleurs, on vous rattrape par la manche. Et c'est arrivé aussi à James Baldwin, qui a voulu, a commencé sa carrière et avec un roman qui se passe à Paris et qui impliquait des jeunes gens amoureux, des hommes, et Giovanni Zoom. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu le chantre de la négritude américaine, si l'on peut dire.
Il y a des questions, quand même, auxquelles vous êtes là de répondre?
Oh, mais je suis un peu épargné parce que quand même je publie des livres, je ne parle pas, je suis pas un essayiste qui a écrit un grand livre sur la francophonie auquel on demande toujours des réponses. Les gens savent que quand on me pose des questions, j'ajoute une nouvelle question à leur question, donc ça ne sert à rien.
Tiens,
je ne sers à rien.
Et vous ne servez à rien, si vous servez à quelque chose, sinon vous seriez pas là. Y a-t-il des questions qu'on vous pose jamais et que vous aimeriez qu'on vous pose, tiens, Dany Laferrière?
Oh, non, je n'aime pas les monologues. Et parce que si je commence à entrer dans ma propre tête, je n'en sortirai pas. Et je garde quand même cette réflexion de Malraux. C'était un monologue où il entendait lui-même l'objection. Alors, je n'en suis pas là. Et non, je pense pas. J'attends cette question qu'elle arrive. Je la reconnaîtrai.
Qu'est-ce que c'est une bonne question pour vous, tiens?
Une bonne question, c'est une question qui me met pas mal à l'aise. J'ai pas envie de devenir professeur. Et c'est une question qui ne demande pas d'explication, qui demande d'entrer dans un état de poésie.
Et dans quelle mesure, précisément, la poésie est-elle le lieu de l'interrogation pour vous?
Oui, parce que c'est directement lié à la vie. Et on ressent une chaleur particulière dès qu'on est en présence de la poésie. On n'a pas besoin de chercher à comprendre. Brusquement, je l'aimais moite. Regardez, juste à dire le mot poésie, et je l'aimais complètement moite, parce que c'est, oui, c'est un état, c'est la poésie pour moi, c'est le point le plus aigu du temps, c'est-à-dire être installé comme ça dans le présent, un présent continu. C'est comme un orgasme ininterrompu.
Là encore, effectivement, si vos mains sont si moites, c'est que votre corps parle. à ce moment-là.
Oui.
Précisément. Quel a été votre premier contact avec le monde des livres, Dany Laferrière? Je crois que c'était lié à la littérature étrangère. Je me trompe?
Ou la littérature étrangère, elle est souvent étrangère. Et elle ne l'était pas pour moi quand j'ai commencé à lire, parce que je pensais que si ces écrivains-là se trouvaient dans ma chambre avec leurs livres, c'est qu'ils habitaient dans la même petite ville que moi. Je pensais que Mishima devait être un voisin, ou cet homme un peu avec les yeux bridés qui venait voir ma tante, Ninine. Et je pensais que tous ces écrivains m'entouraient. Il y avait un village d'écrivains et qu'ils envoyaient des cartes postales sous forme de lettres, dont la plus longue était Guerre et Paix.
D'autres rives, vous racontez comment, après avoir quitté Haïti pour le Québec, vous découvrez avec exaltation la facilité avec laquelle on peut se procurer des livres d'auteurs étrangers. Et vous passez des heures à lire dans votre baignoire. Pourquoi votre baignoire?
Ben, c'était le seul luxe que j'avais. Et j'avais loué une petite chambre derrière le terminus voyageur, là où les autobus partent pour New York, Boston, Chicago et d'autres villes aussi du Québec. Et j'étais là tout prêt, prêt à partir. Mais je n'avais pas d'argent pour partir et les livres. Oui.
Mais vous me disiez tout à l'heure que la littérature, le lieu de la littérature, c'est la place assise, c'est être assis. Dans une baignoire, on n'est pas assis.
Pour écrire.
Ça veut dire que vous n'écrivez pas dans votre baignoire.
Pour écrire, pour lire. Pour lire et dans la baignoire, et j'aime bien le liquide amniotique, l'idée du ventre maternel. C'est rond.
C'est effectivement très rond.
C'est profond et c'est rond. Et puis, il suffit de mettre une petite goutte d'encre au bleu pour avoir la mer des Caraïbes.
Vous le faites parfois?
Non, je ne le fais pas parce que je suis pas nostalgique.
En tout cas, c'est le lieu, la baignoire, vous le disiez, qui rend possible une certaine intimité, qui suppose une forme d'isolement aussi, de solitude. Il vous évoque quoi ce mot solitude?
Tiens. Intimité. Et bon, la solitude, c'est le rêve de tout Haïtien, puisque les villes sont surpeuplées. On vit à Port-au-Prince, et dans une ville qui avait commencé avec 400 000 habitants et qui se retrouve aujourd'hui avec près de 3 millions. Donc on est regardé, on est vu tout le temps, on est observé avec bienveillance. Mais il y a tellement de gens, les maisons sont vides le jour, mais remplies la nuit quand tout le monde rentre pour se coucher. Donc, il n'y a pas de solitude possible.
Alors c'est un luxe.
Alors quand j'entendais que les gens disent je souffrais de solitude dans les livres, je comprenais pas. C'était mon rêve, par exemple. Les enfants détestaient tous à aller au pensionnat. C'était mon rêve un jour que je puisse être seul un dimanche au pensionnat. Tout le monde est rentré à la maison. Je suis orphelin. Il y a personne qui veut de moi et j'ai avec moi Guerre et Paix.
Et aujourd'hui, dans quelles circonstances est-ce que vous vous sentez seul, vous?
Dans ma tête seulement, parce que le reste du temps... Mais là où je suis, dans le studio où je vis à Paris, je me sens très bien. Mais il n'y a pas de différence pour moi entre solitude et intimité. Et parce que je ne souffre pas du fait d'être seul. Donc je suis en intimité avec moi-même.
Vous vous rendez compte de la chance que vous avez, Dany Laferrière?
Eh bien, la chance, elle est donnée presque, parce que les livres sont partout et il suffit. Même dans notre tête, on peut faire circuler les récits.
On va reparler de récits, d'écriture, de lecture, juste après Nat King Cole, parce que je sais que comme moi, vous aimez le jazz. My Mother Told Me, en 1949, vous êtes sur France Inter avec Dany Laferrière. Vous écoutez Boomerang, un jeudi de printemps.
My mother told me there would be some nights like this. My mother told me to never trust a woman's kiss. My mother told me there would be some nights like this. She took me on the side and said, don't be no fool. When a woman's lips are warm, son, you better play it cool. My mother told me that there would be some nights like this. My mother told me to never trust a woman's kiss. The first time that I met you, you didn't have a cent. I had to buy your dinner, then I paid your rent. I took you cabaret and bought you fancy clothes. And you kept saying, Daddy-o, won't you buy me some of those? But now I'm on the outside, the lock is on the door. Since you spent all my money, honey, you say you don't want me anymore. My mother told me that there would be some nights like this. My mother told me that there would be some nights like this. My mother told me to never trust a woman's kiss.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est assez irrésistible, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Douceur, générosité, malice, solidité. Souvent, on en a un des quatre. Et ben lui, c'est le grand chelem avec son équipe étive, ses grandes mains, jeu de vilain. Son autorité aussi qui inspire le respect. Avec cette petite originalité qui est cette cravate bariolée. Ce matin, sur un costume bleu, l'académicienne Dany Laferrière, invitée de Boomerang, à deux semaines ou trois de la semaine de la sortie, pardon, de son nouveau livre Vers d'autres rives, que vous avez écrit, Dany, à la main et illustré à la main aussi. Depuis quand est-ce que vous dessinez? Tiens.
Il n'y a pas longtemps, il y a un an et demi, enfin, j'ai dessiné pour faire le livre Autoportrait de Paris avec Chat. J'ai dessiné parce que c'est ça, j'étais fatigué, c'était la dernière porte de sortie. Oui, les couleurs me reposent.
Et petit, vous ne dessinez pas?
Ah non, pas du tout.
Mais cette pratique, pourtant, elle s'inscrit dans une tradition. C'est ce que l'on comprend aussi quand on lit votre livre. Qu'est-ce que les œuvres de peintres naïfs haïtiens, par exemple, vous ont appris?
Ah mais tout, c'est-à-dire ma littérature, elle est influencée par ces œuvres qui apportent cette joie immédiate, hein, et même si sous-jacent il y a la douleur.
Qu'est-ce qu'elle nous montre effectivement, ces œuvres, ces peintures?
C'est un vieux peintre, Baptiste, qui me l'a dit, et il m'a dit simplement, est-ce que vous aimeriez mettre dans votre salon ce que vous pouviez voir par la fenêtre? Il faut mettre autre chose. C'est cela. Alors je lui avais dit, mais pourquoi vous faites une peinture si joyeuse, si lumineuse, si colorée, si alors que l'espace haïtien est devenu presque désertique, et mais vous avez des manguiers avec des fruits lourds, juteux, charnus. Il m'a dit, mais monsieur, je peins le pays rêvé et non le pays réel.
Vous écrivez le pays rêvé, vous?
Les deux, à la fois. J'aime bien mélanger ce réel, parce que il y a des gens pour qui le mot désert veut dire quelque chose de fascinant et d'infini. Il y a des situations désertiques qui sont magnifiques, permettant même des méditations prolongées. Mais il y a aussi d'autres, ça veut dire l'absence de nourriture, l'absence d'arbres fruitiers, la possibilité d'avoir de l'ombre.
Vous voyez qu'un mot peut changer de sens aussi, suivant oui. La façon dont on le dit. En tout cas, ce qui me fascine dans votre livre Dessiné et manuscrit, je le disais, c'était déjà le cas effectivement pour Autoportrait de Paris avec Chat, c'est que vous affirmez en quelque sorte le pouvoir de la main. Ce qui me paraît nécessaire en ce jour de printemps, le pouvoir de la main, on en a tous besoin. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec vos mains, vous, au juste, Dany Laferrière?
Eh bien, j'appréhende le monde avec la main. Et j'ai remarqué que les enfants font ça, ils commencent, je crois, la première chose, le premier acte physique d'un enfant, c'est de porter la main à la bouche. Et c'est de l'autocannibalisme. Il y a d'autres qui font de l'autofiction, moi je fais de l'autocannibalisme.
Enfin attendez, les enfants, ils ne la mangent pas, la main.
Ah ben s'ils pouvaient, ils n'ont pas de dents. Mettez-leur des dents, vous allez voir les bébés, ils vont se dévorer. C'est la première viande à la portée de main, si on peut dire.
Vous êtes un ogre, Dany, ce matin. Qu'est-ce que c'est la main d'un écrivain, pour vous?
Ah ben, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, je crois. C'est son premier outil.
Vous pensez que c'est une part de notre anatomie qu'on sous-emploie aujourd'hui, à laquelle on accorde moins d'importance?
Oui, oui.
J'ai quitté Port-Goave pour Port-au-Prince, puis pour Montréal, et c'était la dernière fois que mes mains remuaient la terre. Cette main qui a écrit aujourd'hui plus de 30 livres, la somme de papier. mais n'a plus planté un seul arbre depuis un demi-siècle. Je me demande si cela n'a pas influencé mon écriture d'une certaine manière. Au bout de mes doigts ne fleurissent que des noms de fleurs. C'est ce que vous écrivez dans Vers d'autres rives. Dany, ça vous manque, la terre?
Oui, mais je l'ai transporté sur la page et je suis devenu un cultivateur.
À quoi elle ressemblait, cette terre dont vous parlez? Qu'est-ce qui la caractérisait?
Et d'abord, c'est mon grand-père, c'est lui qui voulait qu'on plante des arbres. Je crois que c'est la plus belle leçon que j'ai reçue de la vie. Et c'est exactement ce que je fais dans l'écriture. Et on plantait des pois, des haricots, et il fallait mettre un espace régulier entre deux plantes. Et je me levais au milieu de la nuit pour aller voir, et pour assister à leur apparition, à la lumière. Et c'est extraordinaire. À chaque fois, j'arrivais trop tard et je ratais la naissance de l'arbre.
C'est passionnant parce que je me disais en vous lisant que peut-être que ce qu'elle vous a appris, la terre, c'est précisément le temps. Prendre le temps. Et j'ai l'impression que tout l'enjeu pour vous de travailler à la main, Dany Laferrière, il est là, justement, de résister à la vitesse, de prendre le temps.
Absolument. Je me souviens, quand on me parlait d'Internet au tout début, qu'on disait à chaque fois, vous allez voir, ça va vous épargner de temps perdu, ça va, vous aurez plus de temps. J'ai dit non, je veux pas ça du tout. Je veux avancer au rythme de mon corps, de mon être. Je veux pas voir plus loin que mes yeux, un horizon que je peux toucher. Je ne veux pas aller plus vite que le cheval.
Qu'est-ce qu'on perd, en fin de compte, quand tout va trop vite?
On perd tout parce que on est entraîné dans une vitesse de foule, puisque on croit que la vitesse c'est essayer de disons d'amoindrir la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, alors que tout simplement c'est un entraînement hydraulique. On est comme porté par une masse qui nous pousse derrière. Vous vous souvenez d'Astérix, poussez pas, engagez-vous, qu'il disait. C'est-à-dire ces petits soldats au milieu de cette masse de soldats romains qui voulaient pas affronter les Gaulois, poussez pas ceux de derrière, avancez pas ceux de devant. Donc c'est ça. Et alors cette vitesse, c'est que maintenant ça se passe, on est tout seul, mais la foule est autour de nous. Et quand on refuse et qu'on s'assoit.
C'est pour ça, je me disais là en vous écoutant, que vous aimez être seul. C'est pour résister aussi à la vitesse, à l'urgence.
Et m'asseoir aussi. Tout ça, pour moi, l'écriture, c'est un fait assis.
Un fait assis?
Oui.
C'est une belle expression, ça, un fait assis pour l'écriture. Le temps, vous l'avez pris, Dany, pour nous écrire ce matin un texte inédit, un texte dont vous avez choisi de nous faire la surprise, en refusant de nous en dévoiler le sujet. Pourquoi tant de mystère, d'ailleurs?
Il n'y en a pas, c'est simplement la surprise.
La surprise?
Oui, la gaieté de cette chose à laquelle qu'on n'attendait pas, tout simplement.
Alors, je vous écoute.
Je ne sais pas trop quand cela m'est arrivé. Un jour d'épuisement, peut-être. Il faut dire que ce genre de choses ne m'arrive qu'après avoir franchi la barrière de la fatigue, un état second si productif dans un certain sens, mais très rare. Je me suis assis près de la fenêtre qui donne sur une rue agitée. Je ne voulais rien, simplement être là où je suis. Je ne comptais ni les jours, ni les mois, ni les années. Un oiseau jaune au bec noir franchit subitement le feuillage vert, comme pour annoncer un printemps précoce. Mes sens pouvaient encore percevoir la nouvelle saison. Je sens quelque chose monter en moi. Un ruisseau d'encre se substitue au sang qui me coule dans les veines. L'impression subitement d'être un arbre. Un arbre assis près d'une fenêtre. Je prends une feuille de papier, je sens une certaine promiscuité avec le papier. Un rapport viscéral. Je le touche, je le palpe. De plus en plus, la main de l'homme se détache du papier pour se refermer sur un petit appareil métallique qu'elle caresse du pouce. Je veux écrire directement sur le papier. J'y trace des hiéroglyphes, je n'arrive pas à me lire. Je dessine à côté pour tenter de m'exprimer plus visiblement, complètement absorbé par ce qui naît sous ma main. Je continue sans prêter attention à ce magma de formes et de lettres. Cela fait quelques décennies que j'ai délaissé la main pour la machine à écrire, qui me semblait plus moderne, plus proche de la sensibilité d'une certaine époque. Heureusement, la main est de retour. J'observe un long moment le plus vieil outil de l'homme. La main qui a connu le chaud et le froid, le rugueux et le doux, la peau, une main sur le dos d'un bébé. toutes ces émotions encore cachées quelque part sous l'épiderme. On écrit à la main cette main qui conserve dans chacun de ses mouvements tous les âges du monde. Cette longue expérience du paysage comme du visage menacée aujourd'hui. J'ai repris ma main, je ne la lâcherai plus. Et avec elle, les couleurs arrivent, tout un monde enchanté fait jour, et cette impression de retour à l'enfance, avec un présent sans passé ni futur, juste le plaisir d'être là, près de cette fenêtre qui donne sur une rue agitée.
Quel beau texte, Daniela Ferrière, quel cadeau vous nous faites ce matin. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre prochain livre, Vers d'autres rives, est publié aux éditions de l'Aube et sort le 18 avril, que c'est une très belle œuvre. Je rappelle aussi que vous présiderez le 8e salon du roman historique de Levallois qui aura lieu le 31 mars prochain et que vous serez également l'invité d'honneur de la foire du livre Livre en folie à Port-au-Prince le 20 juin prochain. Tout de suite, les médias avec l'alchimiste des médias, Sonia De Villers, juste après ça. Lalito, Mélissa Lavo sur France Inter.